Radio Courtoisie, histoire à la loupe.
Comment peut-on tout perdre alors qu'on a tout réussi? Tel est l'enseignement que l'on peut tirer au sujet d'un des espions les plus célèbres, Vladimir Hippolytovitch Vetrov. Ce nom ne doit rien dire à personne, mais son nom de code, Farewell, peut-être rappelle quelque chose à certains. L'affaire Farewell.
Histoire à la loupe, une émission de Radio Courtoisie, récit de Patrick Simon, montage et arrangement sonore, Sandrine Moutier.
Vetrov était dans les années 60 un attaché commercial à l'ambassade soviétique à Paris, en charge du développement du commerce entre les deux pays. Mais derrière cette qualité, il avait une mission plus secrète. Recruter des agents qui avaient pour mission d'approcher des ingénieurs français pour obtenir des matériels de haute technologie interdits à l'exportation vers l'URSS. Au cours de ses sorties, il croisa souvent Jacques Prévost, un homme affable, éduqué et stylé, qui savait ouvrir les portes du tout Paris à Vladimir, mais qui était surtout une de ses cibles préférées, car Prévost était un haut cadre chez Thomson CSF, société française spécialisée dans la technologie militaire, et il supervisait tous les contrats avec l'Union soviétique. Lui aussi avait intérêt à fréquenter Vetrov, car il pouvait lui apporter des affaires intéressantes d'exportation légale. Ce ne fut donc pas un hasard si Prévost se laissa approcher. Ce d'autant plus que ce monsieur était par ailleurs un honorable correspondant, comme on dit, de la DST. Rien que ça. C'est les services secrets français de l'époque. Et la DST s'intéressait au cas Vetrov. Pouvait-on le retourner et en faire un agent double? Possible. En somme, chacun avait repéré l'autre avec un objectif autant officiellement commercial que secrètement inavoué. Ils se jaugèrent, se reniflèrent et finirent par sortir, d'abord seuls, ensuite avec leurs épouses. Ils commencèrent par se retrouver dans de petits estaminets pour causer business. Vetrov avalait son verre de vodka d'un trait et sans le moindre dérapage de glotte. Prévost le laissait faire, curieux de voir s'il n'allait pas, des fois, se confesser. Mais il en fallait plus pour recueillir ses confidences. Car cet ancien athlète n'était pas du genre à causer à tort et à travers simplement parce qu'il avait un coup dans l'aile. D'ailleurs, ça faisait partie de la formation des délégués commerciaux de l'ambassade qui allaient de cocktail en repas bien arrosés ou peau sympathique lors de leurs différents rendez-vous. Ils devaient boire sans s'enivrer. Et de fait, Vetrov supportait bien l'alcool. C'était nécessaire, car les exportateurs français gâtaient les commerciaux soviétiques dans la perspective d'obtenir un gros contrat et n'hésitaient pas à leur faire la tournée des grands-ducs, au Lido, à l'Alcazar, dans les restaurants les plus chics. C'était la belle vie dans l'enfer capitaliste. Mais de fil en aiguille, de bar en restaurant, de cabarets en boîte de nuit, ils finirent par s'apprivoiser, puis par se lier d'amitié sincère, même si elle n'était pas dénuée d'arrière-pensée. Un soir, Prévost vit que Vetrov était contrarié, car il s'était mis à se plaindre. Aussitôt, il saisit la balle au bon.
Dis donc, Vladimir, tu aimes la vie. T'es plutôt un fin gourmet, un amateur d'art, de culture. Et pourtant, t'es triste de temps en temps. T'as comme un air de mélancolie. Tu trouves pas ?
Je ne suis pas mélancolique, Jacques. Je suis juste mécontent.
Mécontent de quoi ?
Ce n'est pas pareil. Mécontent des arrivistes, des combinards, des privilégiés, des gens qui bénéficient du piston.
Ah, moi, j'ai jamais eu recours au piston pour entrer chez Thompson.
T'as donc été recruté pour ta compétence ?
Je crois avoir eu cet honneur. Mais toi aussi, t'as été nommé à l'ambassade pour cette raison.
Moi, je suis d'une famille modeste. Mon père était contremaître, ma mère femme de chambre, et ne savait ni lire ni écrire.
T'as quand même fait de belles études, tu m'as dit.
Oui, mais je suis pas de la haute.
Comment ça, Vladimir ? Tu viens d'une société égalitaire. Il n'y a pas de haute là-bas.
Égalitaire peut-être, mais il existe une nomenclatura dans mon pays. Et je n'en suis pas. Toi, évidemment, t'as pas rencontré de pistonné.
Et toi ?
Moi, j'en vois de plus en plus. Des fils à papa ou des gens recommandés par un père ou un oncle bien placé. Ils viennent travailler à l'ambassade, envoyés depuis Moscou, mais ils ne foutent rien et nous laissent faire tout le boulot, nous qui ne venons pas des bonnes familles. Ils viennent juste pour profiter de la vie à l'étranger.
Putain, c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Car Prévost avait pour habitude de signaler à la DST tous les soviétiques qu'il rencontre, susceptibles d'être retournés. Caractère, famille, vie, petites amies, habitudes. Cheveltrov est frustré. Il correspond donc au profil recherché. Il faut le ferrer. Quelques mois passèrent. Et en été 1970, survint un accident de voiture. La thèse officielle est la suivante. Vetrov habitait un petit manoir à Montsou, à 25 km de Paris, là où les immeubles de banlieue finissent par disparaître pour laisser place aux paysages champêtres et verdoyants. Ayant abusé de la boisson et sous l'emprise de la barrique brouillardeuse, le voilà qui emplafonne sa belle voiture de fonction à la sortie de Paris. L'automobile aurait été percutée par une autre voiture et détruite. Cette fois-ci, se dit Prévost, c'est l'occasion. Et il fit réparer à ses frais et en urgence la Peugeot 404 pour que, en haut lieu, on ne s'aperçoive de rien. Car si on s'en était aperçu, des ennuis sérieux avec la hiérarchie du KGB auraient pu débuter pour l'attaché commercial. La réparation coûta plus cher qu'une voiture neuve. Ce geste, qui lui sauva la mise, fut très apprécié et l'amitié se renforça entre les deux hommes. Cette version comporte cependant quelques zones d'ombre qui en affectent la crédibilité. D'abord, Vetrov supportait bien l'alcool comme tous les officiels du KGB et était un virtuose du volant. Curieux qu'il n'ait rien vu venir. Ensuite, nul n'a jamais retrouvé la voiture en question avec laquelle il était entré en collision. Pas de constat, pas d'échange. Il aurait perdu connaissance, a-t-il prétendu. Ce n'est pourtant pas son genre. Enfin, quelques jours plus tard, notre homme est approché par quelqu'un des services secrets français qui lui propose un recrutement. L'accident aurait-il été provoqué par la DST pour ensuite tout réparer dans le but de s'attirer la reconnaissance de l'intéressé. C'est une hypothèse qui n'a jamais pu être prouvée, mais qui est envisagée par Sergueï Kostine dans son livre « Bonjour, farewell ». Nous en lisons un extrait.
Une des règles d'or du métier veut que l'approche ne soit jamais faite par le premier contact de la cible. Le recrutement peut échouer, mais les rapports doivent être sauvegardés. Voilà pourquoi, à un certain stade, apparaît un ami qui assume ce rôle ingrat et qui disparaîtra en cas de déconfiture. En l'occurrence, Jacques Prévost présente à Vetroff un certain Pierre. C'est un ancien rugbyman, membre de la sélection nationale. Il en a la stature, grand, bien charpenté, très musclé. Il présente un physique agréable et ne manque pas de charme. Le KGB sait qu'il fait partie des services secrets français. Pierre n'en a rien laissé paraître lorsque les Vetroff ont dîné deux ou trois fois avec lui et Jacques Prévost. Svetlana savait déjà que l'intérêt de Prévost à l'égard de Vetroff était dicté en premier lieu par sa collaboration avec la DST.
« Il me propose de faire défection »,
dit-il à Svetlana en lui demandant son avis. Si elle avait dit oui, ils auraient choisi la liberté au lieu de retourner à Moscou et l'affaire d'espionnage que nous racontons n'aurait jamais vu le jour. Mais elle dit non. Car elle restait tout de même attachée à son pays. Le maître espion n'accepta donc pas l'offre. Mais l'hameçon resta néanmoins planté.
Il se gardera bien de rapporter l'approche de recrutement à ses supérieurs, comme c'était son devoir. Leur raisonnement était prévisible. On n'approche pas tout un chacun. Si les Français ont essayé de te recruter, c'est que tu leur en avais donné le prétexte. Du coup, Vetroff n'aurait plus aucune chance d'aller opérer dans un pays occidental. Dans le meilleur des cas, il aurait pu être affecté en Afrique ou en Asie. Dans le pire, il risquait de rester à jamais à Moscou.
On dit que notre futur Farewell était un communiste sincère et idéaliste et qu'il n'a trahi ce régime abominable qu'à cause de sa déception après la découverte de ses injustices sociales. Si c'était le cas, pourquoi alors, quand il était à Paris, s'était-il lancé dans de petits trafics ? Comme il était bon client pour les commerçants parisiens, il achetait pour pas cher chaînes hi-fi, téléviseurs, magnétophones, meubles, matériel électronique, radiotransistors, des plus grandes marques, pour en faire bénéficier les officiels de l'ambassade, en prenant une petite marge au passage. Il achetait et revendait, via la boutique de la représentation commerciale, des produits occidentaux, au prix de gros, plus des taxes d'importation. Citons à nouveau Costine. « On se fournissait pour une bouchée de pain chez une petite vieille, fille ou femme appauvrie d'un peintre, un comédien, voire un haut fonctionnaire. On revendait à un nouveau riche, clandestin, soucieux d'investir ses roubles qu'il ne pouvait pas dépenser ouvertement. À chaque objet qui passait par leurs mains, les collectionneurs se faisaient une marge plus que confortable et parfaitement légale. En fait, tout ceci démontre que les agents du KGB étaient mal payés et qu'ils avaient besoin de ressources supplémentaires. Les vrais choix se font là. Et l'économie de marché apparaît comme indispensable à tous, même aux communistes les plus intransigeants. Les liens d'amitié entre Prévost et Vetroff se sont néanmoins maintenus, car le français est souvent à Moscou pour Thompson, ce qui lui permit d'entretenir la relation. En 1974 et jusqu'au premier mois de 1975, Vetroff n'est plus à Moscou. Les Vetroff sont au Canada. Vladimir, occupant les mêmes fonctions à l'ambassade de Montréal, puisqu'il parlait français, avec la même couverture. Svetlana possédait une broche en or parée de diamants et de saphirs qu'elle avait achetée à Moscou et qui nécessitait une réparation. Elle vint chez un bijoutier à Montréal pour la dite réparation. Lui remit la bague, ainsi que quelques autres bijoux, contre un reçu. Une semaine plus tard, Le couple revint chez le joaillier pour récupérer leurs biens. Mais, malchance, il y a eu cambriolage et presque tous les objets ont été volés. La bande de voleurs fut retrouvée par la police et ces cambrioleurs, au lieu de se rendre, préférèrent ouvrir le feu. En conséquence de quoi, ils furent tous tués. On retrouva certains bijoux, mais pas ceux de Svetlana. C'est alors qu'elle apprit qu'une de ces lois, symptomatique des sociétés totalitaires, interdisait aux soviétiques de vendre, ni même de faire réparer à l'étranger des bijoux achetés sur le territoire russe. Elle décida alors de renoncer à réclamer pour éviter que ces faits remontassent aux oreilles des services secrets. Pourtant, une lettre destinée à Vetrov fut reçue par l'ambassade soviétique. Comme on pouvait s'y attendre, ce courrier fut ouvert et lu. Les autorités québécoises y informaient les Vetrov du vol des bijoux et leur demandaient de venir se présenter à la police pour estimer leur valeur puisqu'ils n'étaient pas assurés. Le pot rouge était révélé. Ainsi, Vladimir Vetrov, qui pendant des années s'était livré à Paris à de petits trafics sans être inquiété, allait subir quelques remontrances pour avoir simplement voulu faire réparer un bijou à l'étranger. Ça rappelle cette blague russe du goulag.
Si t'as rien fait, c'est 5 ans.
Toujours est-il que, peu après, il fut rapatrié à Moscou au motif fallacieux que le contre-espionnage canadien serait en passe de l'arrêter. Pour éviter de mettre la puce à l'oreille des autorités canadiennes, le KGB fit partir Vladimir seul, comme s'il devait seulement faire un déplacement professionnel et revenir, laissant Svetlana à Montréal pour donner le change et faisant semblant d'accompagner une délégation soviétique rentrant au pays. Mais toute cette mise en scène paraît un peu excessive juste pour cette affaire de bijoux volés. N'y aurait-il pas autre chose ? Comme dans beaucoup de ces affaires d'espionnage, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Mais on peut émettre des hypothèses. Costine en avance une. Il s'agissait de couvrir une taupe canadienne du KGB et de montrer aux services secrets adverses que Vetrov allait revenir et dès lors qu'il n'était pas exfiltré en urgence. Il n'en demeure pas moins que cet incident est venu s'ajouter à une accumulation de petites frustrations ou irritations, ainsi que d'interrogatoires déprimants. À son retour à Moscou, il fut mis au placard, puisqu'il fut nommé assistant au chef du 4e département de la direction T, espionnage scientifique et technique, première direction générale du KGB. Paradoxalement, cette nouvelle humiliation lui donna accès aux informations sur l'ensemble des sources qu'étaient les informateurs occidentaux et lui fit découvrir dans toute son ampleur à quel point l'appareil militaro-industriel soviétique était en retard et dans la dépendance de l'espionnage technologique de l'Occident. Peut-être s'est-il dit
« C'est foutu ».
C'est que l'ambiance de ce département, où se retrouvaient des agents démotivés, n'était pas porteuse. Ils en savaient trop pour qu'on les laissât aller espionner à l'étranger, car ils auraient pu faire défection. Mais ils n'étaient pas de la nomenclatura leur donnant accès à une vie confortable à Moscou, ce qui suscitait de leur part un certain ressentiment. Mais le plus extraordinaire était que sa tâche consistait à résumer et à synthétiser les rapports des différents espions du KGB dans le monde entier. Cela revenait écrit Costine,
a donné les clés du coffre-fort à l'homme auquel on a peur de confier son porte-monnaie.
Or, Vladimir Vetrov était par ailleurs au-dessus de la moyenne. Très bon élève à l'école, puis dans l'enseignement supérieur, officier fort efficace au KGB, un des meilleurs opérationnels à l'étranger, et le voici maintenant sur une voie de garage, dans un bureau qui est une sorte de dépotoir pour anciens. Il était alors âgé de 48 ans et se rendait bien compte qu'il n'avait pas la place qu'il méritait, qu'il était en fin de course. Et enfin, qu'en comparant les performances occidentales aux réalités soviétiques, il n'y avait pas photo, comme on dit. Son voisin de bureau, pilote de chasse prestigieux, partageait ce ressentiment. Il était lui aussi scandalisé par les pistonnés et s'en plaignait. « Alors c'est pour ça que j'ai fait la guerre !» Et Vladimir, lui, s'en plaignait à Svetlana. Pourtant, l'officier ne se découragea pas. Le voici qui rédige un mémoire proposant une refonte complète du renseignement, supposant des changements profonds du système des résidents à l'étranger. Mais rien à faire, ces propositions se heurtèrent à l'inertie et au train-train quotidien, nouveau motif de découragement pour lui. À ces multiples causes de démotivation, vint s'en ajouter une autre. La liaison de Svetlana avec le frère d'un cosmonaute connu, un certain Boris, pilote d'hélicoptère, un beau gosse, jeune et charmant. Ce n'était pas la première fois que Svetlana avait une aventure extra-conjugale, ni Vladimir d'ailleurs. Mais il encaissa mal ce dernier adultère, probablement parce que tout réussissait au Boris en question, et que la comparaison avec ce nouvel amant n'était pas à son avantage en ce moment de doute. Et c'est là que commença la dérive. Il rentrait le soir, en titubant, en balançant des hanches, en tâtant le sol avant d'y poser le pied comme un ivrogne chronique tremblotant, peu sûr de sa démarche, parfois incapable de parler et se faisant engueuler par Svetlana. C'est au cours de ces beuveries que l'officier rencontra Ludmila Otchikina, une traductrice du KGB. Curieusement, elle s'intéressa à cet homme en fin de parcours. Ce qui prouve que, dans ses choix d'amant, elle ne se laissait pas influencer par l'apparence, ni par ses affinités personnelles. Mais par quoi, alors? Sans doute, notre officier avait-il quelque chose d'indéfinissable, un mélange mystérieux de hargne, possessive, et d'audace, transgressive, qui attirait Ludmila. Pensez à la scène de Docteur Jivago où la belle Julie Christie embrasse l'avide Rod Steiger. C'est ainsi que, sous l'effet de l'alcoolisme chronique, comme de cette liaison avec Ludmila, le couple Svetlana-Vladimir finit par se séparer et notre homme se retrouva seul. C'est le moment où il fit le pas décisif. Il contacta par deux fois la DST à la fin de 1980. Et nous allons interroger à ce sujet Marcel Chalet, qui était à l'époque directeur de la DST.
C'est moi qui ai choisi le nom de code Farwell, un mot anglais. Comme ça, l'opération tournant mal, ils auraient incriminé les anglo-saxons et les pistes auraient été brouillées. En plus, Farwell veut dire adieu, ce qui pouvait faire penser à une affaire classée. On pouvait les endormir ainsi.
Et pourquoi vous a-t-il choisi, vous, la DST, plutôt que les Américains, les Anglais ou même le SDEC français qui opérait à l'étranger, alors que vous, vous ne pilliez pas l'étranger.
Mais tout simplement parce qu'il nous connaissait. Longtemps avant, Jacques Prévost lui avait fait une offre de recrutement. Vous savez, les approches de ce genre ne produisent pas toujours leurs fruits immédiatement. Parfois, il faut attendre, car c'est un travail de longue haleine. On sème et on récolte plus tard.
Mais pourquoi les services secrets, français plutôt qu'américains ?
Le KGB surveillait plus les Américains, où il avait des taupes susceptibles de remonter jusqu'à Vetrov, que les Français, qu'il prenait moins au sérieux, surtout la DST, qui n'opérait pas à l'étranger et n'était pas infiltrée. Qui aurait pu nous soupçonner de recevoir les renseignements de la taupe ? Et puis, il avait vécu plusieurs années en France, où ça s'était plutôt bien passé, contrairement au Canada, et où il avait appris à comprendre la mentalité française, ce qui lui était utile pour communiquer. Il me l'a d'ailleurs écrit dans une lettre qu'un de mes agents m'a remis. Vous me demandez ce qui m'a décidé à faire ce pas, je pourrais l'expliquer ainsi. J'aime beaucoup votre France qui a laissé une empreinte profonde dans mon âme. Dans mon propre pays, je vois que globalement les gens vivent selon le principe « l'homme est un loup pour l'homme », ce qui répugne à tout mon être. Et puis, c'était facile, car Prévost était souvent à Moscou, vu que Thomson avait réussi à obtenir un gros contrat pour rééquiper la télévision soviétique en vue des Jeux Olympiques de Moscou.
Comment vous a-t-il contacté la première fois ? C'était risqué, puisque depuis Moscou, il n'avait pas le droit de parler aux étrangers.
Farwell avait demandé à son beau-frère, Lev Barashkov, vedette de la chanson soviétique, qui devait partir en tournée en Hongrie, de poster une carte postale anodine à un ami français.
Depuis la Hongrie plutôt que depuis Moscou ?
Oui, parce qu'en Hongrie, le courrier était peu contrôlé, ou du moins n'était pas ouvert systématiquement. Dans sa lettre, il demandait une rencontre. Barashkov a envoyé la lettre, mais nous n'avons pas réagi.
Jacques Prévost, vous avez pourtant alerté.
C'est là qu'on a cafouillé. J'ai cru d'abord que c'était un leurre ou une machination organisée par le KGB pour piéger Prévost. Je me suis dit aussi, quel est l'intérêt d'avoir une taupe à Moscou si elle ne peut pas nous renseigner sur ce qui se passe à Paris ? À l'étranger, ce n'était pas de ma compétence. Nous n'avons pas tout de suite compris que cela pouvait en intéresser d'autres. Nous l'avons compris un peu plus tard, à la réception par Prévost de la deuxième lettre. C'est là que nous avons envoyé, non pas Prévost, que nous jugions trop connu et compromis par ses contacts passés avec Farwell, mais un nouveau, Xavier Hamel, qui était en poste à Moscou chez Thomson.
Qu'est-ce que Xavier Hamel va découvrir en approchant Vetrov ? Vous le saurez au deuxième épisode. Histoire à la loupe.